jamais mettre de gants blancs. Ah, je pense que ça va être... je pense que c'est la thématique Sylvain Junot, ça. Maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ça sera disponible sur le blvd.fm en réécoute. Sylvain Junot qui est venu nous expliquer comment lui était capable de commencer le ménage du printemps, Pascal. Même s'il y avait encore un peu de neige puis que l'hiver s'éternisait. Une niveleuse qui casse la glace, hein? Gadon ça, on a ça à Saint-Augustin. Peut-être qu'on devrait avoir ça à Québec aussi pour le faire. Chose certaine, la neige, là, il n'en restera plus sous vos terrains parce qu'aujourd'hui, c'est 9 degrés, généralement nuageux. Mais 11 degrés, alternance de soleil et nuages pour samedi. 14 degrés ensoleillés pour dimanche. Puis si on regarde à plus long terme, c'est du 17 degrés pour lundi et mardi. Fait qu'oubliez ça, c'est terminé. On est au printemps. 418-971-1021. Vous pouvez nous texter à savoir c'est quoi vos plans pour le week-end. Moi, je te rappelle, Pascal Cévic, c'est mon premier show d'humour ce soir. Le gang show!
Allez-y en grand nombre voir Jeff, ah, honnêtement. Je pense que ça va être une super belle soirée.
Je me suis préparé, je rentre dans mes
Es-tu
temps.
Es-tu un peu stressé malgré tout?
Là, présentement, non.
Parce que t'animes, tu t'en rends pas compte.
Exactement.
Mais à 14 heures.
Je vais aller faire une sieste, je serai pas stressé.
Tu penses que tu vas dormir?
Oui, quand okay. Je vais me lever de ma sieste. Oh my God, que là, la chienne va me pogner. Et quand je vais rentrer dans la loge à 7 heures, d'après moi, je vais trembler.
Ouais, ouais. Dans la loge, quand même.
Ben oui, hey. Dans la loge, à la salle de Berrousseau,
compté de 19
heures, pas rien là du tout. Donc, c'est ça, mais tu sais, je me dis, il peut rien arriver de grave, parce que si je suis pas drôle, les humoristes vont être drôles à mes dépens, puis si je suis drôle, ben je réussis quelque chose que je pensais jamais réussir.
Absolument.
C'est-à-dire faire rire une salle Albert Rousseau.
T'es un bon scripteur, Nathan était derrière toi.
Oui, Nathan Meyer était derrière moi.
Il est encore derrière toi. Ah, moi, je te trouve très courageux, je suis fier de toi.
Merci, puis il va être là, Nathan, aussi ce soir pour faire un numéro, fait qu'on va, on va serrer coude à coude.
OK, lui aussi, il fait le gang show.
Oui, lui aussi, il fait le gang show, mais lui, c'est un habitué.
Ah, il va souvent?
Ouais, ça doit être la troisième ou quatrième fois qu'il
fait. Ah, pour vrai, j'ignorais ça.
Ouais, moi, c'est la première.
Il paraît que c'est pas mal fun, fait que j'ai bien hâte de voir ça.
Ah, j'ai hâte au bout, je t'en parle lundi. BLVD 101 aussi, c'est l'application pour nous suivre, évidemment. Abonnez-vous à notre page YouTube. Les meilleurs moments s'y retrouvent. On peut peut-être mettre mon gang show, là.
J'aimerais ça.
Pascal, avant qu'on parle à Alicia Despins, justement, de Projet QSL, Ménage de printemps, Garage Newton, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ben, c'est sûr que je te parle quand même du projet du terminal de conteneurs pour le port de Québec, parce qu'on a reçu Joël Lightbound en début d'émission. On parlait que c'est un projet qui promet un processus rigoureux. Donc, gouvernement fédéral qui a officiellement désigné le port de Québec comme terminal de conteneurs international. On ouvre la voie au projet de l'entreprise QSL, c'est pour ça que tu en parles aussi. Ça, c'est dans la baie de Beauport. Avec la certification, ça, c'est attendu depuis plus de 2 ans. Là, on peut enfin déposer formellement le projet auprès de l'administration portuaire de Québec. Et ça fait de Québec un des 5 ports canadiens autorisés à traiter des conteneurs internationaux. Donc, ça renforcit un rôle stratégique, assurément, dans le transport maritime. C'est pas tout le monde qui en est content. On a des gens qui observent une demande au niveau de l'environnement. On veut pas que ce soit géré par le port lui-même. On veut que ce soit fait, entre autres, avec intervention du Bureau d'audience publique sur l'environnement et l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Ça, ce sont les groupes opposés au projet de terminal de conteneurs de QSL qui demandent à ce que cette évaluation-là soit faite un peu à l'écart de ceux qui y travailleront. Alors, on est pas mal là-dedans au moment où l'on se parle. Je vais te parler également de Christine Fréchette qui s'en va du côté de Washington. Donc, elle va être aux États-Unis lundi prochain pour rencontrer des élus américains puis des gens d'affaires. Bien sûr, c'est dans cette mission économique et de relations qu'on s'en va défendre les intérêts du Québec en vue de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Madame Fréchette va rencontrer aussi des représentants de l'industrie de l'aluminium et des constructeurs d'habitation. On s'entend, deux secteurs d'activité extrêmement important au Québec. Toujours pas beaucoup de nouvelles sur le jeune de 16 ans qui a été atteint par balle et qui s'est présenté la nuit dernière à l'hôpital L'Enfant Jésus. Les autorités ont été averties autour de 5h15, puis les circonstances sont encore nébuleuses. Il y a une enquête qui est en cours. On a même érigé un secteur pour protéger les traces de sang qui avaient été laissées par la victime sur la chaussée. Il y a d'importantes blessures, mais la vie de l'adolescent, elle n'est pas en danger. C'est la bonne nouvelle. Encore tôt pour donner plus d'informations, savoir c'est relié à quoi. Mais c'est sûr qu'on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Les membres de la Fédération des médecins spécialistes, ça a été accepté, hein, l'entente de principe avec le gouvernement du Québec dans une proportion de 86 %. Le départ de François Legault aurait permis la conclusion de l'entente. Et c'est selon le docteur Vincent Liva de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Voyez-y ce que vous voulez y voir. Et dans les dernière minute, ce qui est sorti, Jeff, c'est particulier. Je me souvenais pas du tout de cette histoire-là. Mais un cocktail Molotov qui avait été lancé au hasard dans la fenêtre d'un appartement à Lévis, ça te dit-tu quelque chose?
Ouais, mais ça remonte à loin, me semble, pas
2022.
2022, et encore plus loin, je pensais.
J'avais complètement oublié ça. Homme de Lévis qui a été reconnu coupable d'incendie qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Moi, je te dirais que c'est quand même beaucoup de conséquences dramatiques quand même, là. Au hasard, c'est deux cocktails Molotov qui ont été lancés dans une chambre où dormaient deux enfants. Et une jeune fille de 3 ans a été brûlée sévèrement. C'est assez dramatique, je trouve. Jason Potier Martin, c'est lui qui a été reconnu coupable d'avoir lancé les cocktails Molotov qui ont atterri dans la chambre. Il a nié pendant longtemps avoir ravagé cet appartement-là de Lévis. Mais là, on a pas mal d'informations qui pointaient vers lui. Entre autres, l'achat des deux bouteilles de limonade qui étaient les mêmes que celles retrouvées dans la chambre en pleine soirée, le fait qu'il y avait de l'essence sur ses vêtements et le fait qu'il a été intercepté un peu rôdeur dans le coin de l'appartement. Puis c'est le beau-père des enfants qui l'avait vu en journée puis qui comprenait pas trop qu'est-ce qu'il faisait là dans le secteur du vieux Lauzon. Mais bon, alors on attend encore des informations à savoir combien de temps on va lui donner. C'est une lourde peine qui est envisagée, mais il faut savoir qu'il est détenu depuis 2022. Fait que souvent, ça va réduire un peu les peines parce qu'on a fait de la détention préventive.
Oui, en effet, ce qui va être très, très, très dommage parce que c'est un événement très particulier. Là, une jeune fille de 3 ans qui s'est fait brûler.
Même au 3e degré sur son pied, la mère qui est sortie, qui criait « La petite est en feu ». Imagines-tu la scène où tu penses que c'est paisible, là? Une soirée, t'entends « Pac, la fenêtre éclatée ». Cocktail Molotov. Qui n'a aucun lien. Ben, le gars, c'est juste une décision pas à part dans sa tête.
C'est ça, t'es une famille tranquille, paf, il t'arrive ça. Ouf, t'as pas gagné à la loterie hein, quand
ça
t'arrive.
Non, vraiment
pas. Que non. On va rejoindre immédiatement notre chroniqueuse en politique provinciale, Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Hey, ça va bien. Tantôt, tu me posais la question, y a-t-il des niveleuses à la ville de Québec? Puis, je regardais sur Google, puis je suis tombée sur un « il y en a ». En tout cas, il y en avait en date de 2010 dans un article du Journal de Québec qui faisait état d'un accident où il y a une niveleuse qui avait, de la Ville de Québec qui avait percuté une résidence. Alors que tu as ta réponse, ça existe.
On va envoyer notre Mathias Pascal qui est sur le terrain aller inspecter les garages de la Ville de Québec. Est-ce qu'on a encore des niveleuses?
Après l'accident, on a-tu pris la décision de plus en avoir?
Oui, c'est ça.
Parce que si on a encore des niveleuses, ça veut dire qu'on peut casser la glace. Si on peut casser la glace, ça veut dire qu'on aurait pu commencer le ménage du printemps comme à Saint-Augustin-de-Desmaures. Hey, parlant de Saint-Augustin-de-Desmaures, Alicia, comment tu le trouves, le maire Junot? Je sais que tu as écouté l'entrevue. Moi, je le trouve toujours fin renard. Il est sa fine ligne, la fine ligne entre critiquer vraiment l'administration Marchand et parler de ses réussites à lui.
Tu le sens que c'est très stratégique, là. Oui, il sait où il s'en va, il montre juste assez de ses cartes, là, des cartes qu'il y a dans son jeu, il s'avance sur des affaires, il va jamais trop loin. Moi, je trouve ça quand même super intéressant, ce positionnement-là. Moi, dans le cadre de mes recherches, j'étudie notamment comment les villes se positionnent dans un contexte où elles se retrouvent de plus en plus en compétition l'une contre l'autre parce que, comment tu fais ton argent? Être une ville, c'est des taxes foncières. Il faut que tu attires des gens sur ton territoire, des entreprises, etc. Je trouve ça super intéressant comment le maire Junot se positionne lui, positionne sa ville. Parce que, de par la proximité, Saint-Augustin est en compétition directe avec la Ville de Québec. Puis peut-être qu'elle ne peut pas offrir une vie nocturne, dynamique, plein de festivals, mais au moins, elle peut insister sur d'autres éléments qui sont recherchés par les gens. Puis je pense que ça, Sylvain Junot, il le compte.
Bien, tu as raison, parce qu'à chaque fois qu'il vient en onde avec nous, il y a des gens qui nous textent au 418-971-101. Hey, ça y est, je pense que je vais aller déménager à Saint-Augustin. Donc, il attire justement ce type de clientèle-là, jeune famille, qui recherche de quoi de paisible, propre, des parcs à proximité. Il met vraiment, je trouve, le doigt sur le bon bouton.
Vraiment. Puis, tu sais, il se présente, lui, comme étant un maire efficace. Il présente sa ville comme étant une ville qui s'occupe rigoureusement de ses responsabilités de base, comme l'entretien des rues. Moi, tu sais, si jamais il se lançait dans une marque territoriale ou autre chose, ou reviser le slogan, je ne sais pas c'est quoi le slogan actuellement, mais j'imagine très bien quelque chose du genre « vos taxes à l'œuvre », tu sais, le slogan de la ville, « une ville propre sans flafla », quelque chose du genre, là. Ouverture vers des ambitions provinciales un peu, peut-être aussi.
Oui, il nous l'a dit, ça, il est souverainiste, pas là, mais il garde la porte ouverte, fait que on comprend.
D'un côté, tu sais, il continue de parler à ses citoyens, mais de plus en plus, tu constate qu'il essaie d'élargir un peu là, son bassin, là, son auditoire. Là.
En effet. Grosse annonce aujourd'hui au Port de Québec, projet QSL. Le gouvernement fédéral a donné son sceau d'approbation, c'est-à-dire que le port va pouvoir justement accueillir une douane en bonne et due forme, donc être en règle pour accueillir davantage de conteneurs, c'est 200 000 par année. Je te fais entendre ce que Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, a dit sur nos ondes ce matin dans Marceau le matin.
J'ai un petit message pour tous ceux et celles. Puis c'est correct dans la vie, mais je vous le dis, là, c'est que le port de Québec, ça a été le début de la ville de Québec. C'est le début de notre enrichissement collectif. Puis si le port de Québec va pas bien, ou se développe pas, ou se modernise pas, là, on va tout en payer le prix au niveau économique.
Je suis très d'accord. Ouais. Au niveau économique, ça nous prend ça. Par contre, j'ai pas le choix d'avoir des doutes que ce soit le port de Québec qui s'occupe des études environnementales avec les événements, l'historique que le port a. Pascal nous en parlait, elle habite dans Limoilou, tu sais. Encore crasseux dans Limoilou, il y a eu la poussière rouge. Je comprends les résidents d'être inquiets.
Ben oui, puis tu sais, c'est un débat sur le terminal en tant que tel, mais c'est un débat parce qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Tu as la vision économique, tu as la vision environnementaliste, tu as les citoyens à travers tout ça, fait que ce sera pas évident. Puis être le maire de Québec, je pense que là, c'est un bon test de leadership, encore une fois. Ce débat-là, il partira pas demain matin. Fait que les enjeux économiques d'un côté, les retombées économiques importantes pour la région, le positionnement stratégique du port de Québec, l'argument aussi de la souveraineté économique, la diversification, de la compétitivité internationale. Ça, je pense qu'en ce moment, ça peut parler à bien du monde là, dans le cadre de la guerre tarifaire avec les États-Unis, mais ça se heurte aux enjeux environnementaux, les impacts sur les milieux naturels, l'augmentation du trafic maritime puis du trafic de camions. Ça, je pense que ça stresse beaucoup le monde de Limoilou. Moi-même, si j'étais à Limoilou, je serais bien stressée avec ça. Moi, je serais curieuse de savoir, tu sais, les conseillers municipaux dans le coin, là, je vous le rappelle, ils ont été élus haut la main. C'est des gens de Québec fort et fiers, que ce soit Raymond Poirier à Limoilou, Éric Courtemanche-Barry dans Robert-Chefard. Je serais curieuse, moi, d'avoir leur pouls là-dessus puis voir comment ça se passe sur le terrain avec la mobilisation citoyenne qui est déjà bien enclenchée, là.
Tabarouette que c'est compliqué, hein, Jeff? Oui. Alicia, ça me fait penser au balbutiement du projet de tramway. Où est-ce qu'on met
vraiment
ça? Qu'est-ce qu'on détruit? Voie unique, où est-ce qu'on exproprie le monde? Puis ça, pour avoir un projet de transport structurant qui ne fait pas l'unanimité. Là, cette fois-ci, c'est majeure partie économiquement parlant. Ça ferait énormément de bien à la ville. Puis là, on se dit à quel prix? C'est sûr qu'il n'y a rien qui va empêcher quelqu'un souffre, peu importe le transport, l'environnement et autres, mais il faut aussi avancer. Alicia, c'est difficile en politique, ça.
Ben oui, c'est difficile, puis je pense qu'il y a un potentiel de créer des tensions à l'interne au sein de l'équipe marchand. Tu sais, les conseillers municipaux sur le terrain, peut-être qu'ils comprennent l'aspect économique de plus global. Bon, on s'entend là-dessus, mais en même temps, si eux autres sur le terrain, ils se font dire par leurs citoyens que leurs citoyens sont inquiets, leurs citoyens sont mécontents, c'est plus difficile à ce moment-là de venir leur servir cet argument économique général, tu sais. Puis, j'ai tantôt parlé de Laurentia, l'ancien projet qui a été rejeté. Laurentia, à l'époque, Suzanne Véraud, qui était la conseillère municipale à Limoilou, elle s'était dissociée de la ligne de parti d'Équipe La Bombe parce que c'était pas viable comme position à tenir auprès de ses citoyens. Fait qu'il y a cet enjeu-là économie-environnement, mais il y a aussi cet enjeu-là pour les élus locaux, tes citoyens que tu représentes et les intérêts plus généraux de la ville de Québec. Ça, ce sera pas évident là, à naviguer. Là.
En effet, puis je rappelle que Raymond Poirier était 15 ans à la tête du conseil de quartier de Limoilou contre le projet QSL. Donc, il est branlant. Là.
C'est
il est
important de le mentionner, t'as raison,
Monsieur
Jeff.
Poirier. Alicia, je termine avec le garage Newton qui est toujours au neutre. On apprenait ça à la Une du Soleil ce matin. Excellent texte, encore une fois, de la collègue Émilie Pelletier qui fait de l'excellent travail.
Pourtant, on voulait une relance rapide.
Ouais, c'est ça. Mm. Ça fait un an qu'on a hiverné ça. On a dépensé à peu près 100 millions. Là, c'est au neutre. Christine Fréchette, là, a fait des crochets là, pour 100 jours. Là. Elle fait un crochet à chaque jour de trucs qu'elle voulait que la CAQ réalise. Ça, mais il serait temps qu'on se positionne du côté de la CAQ là, pour la capitale nationale avec ce projet-là.
Ben oui, puis je pense que ça va tenir beaucoup sur les épaules aussi du ministre régional là,
Ouais,
qui bon, il
Jean-François
en reste
Simard.
beaucoup là, des ministres à Québec là, fait que Jean-François Simard, ça va être énormément de pression sur ses épaules parce que 5 mois avant l'élection, mais je pense qu'on va évaluer la capacité du Conseil des ministres actuel à régler des irritants comme celui-ci plutôt qu'à bon réaliser des grandes choses là d'envergure ou régler des grands enjeux de société. Fait que le garage Newton, ça en fait partie. Bon, explosion des coûts, mais le fait est que le projet y était entamé. Le besoin, il est flagrant. Les garages actuels sont à pleine capacité. Je comprends de ce qui est écrit dans les médias là, que le RTC a déposé une proposition. Il y a une proposition actuellement sur la table, quelque chose qui est un peu moins coûteux, une genre de voie de passage de ce que je comprends, où chaque partenaire, le RTC et le gouvernement mettent un peu d'eau dans leur vin. Jean-François Simard, il les connaît les enjeux à Québec. Donc, est-ce qu'il y a moyen pour lui de faire un pont avec Benoît Charrette, qui est nouveau ministre des Transports, qui va devoir apprivoiser très rapidement ses dossiers? Ah, ce serait vraiment une grande réussite du côté du gouvernement, de Mme Fréchette, et du côté du RTC et de Bruno Marchand, de réussir à débloquer ça avant l'automne, parce que déjà 1 an là, sans qu'il se passe rien, chaque jour coûte de l'argent quand les
Ben
projets
oui.
comme ça sont mis sur la glace, là.
Exactement, parce que tu sais, c'est pas vrai que là, vu qu'on l'a mis sur pause, il n'y a pas des choses à faire justement pour conserver ce qu'on a
Juste
déjà fait,
l'entretien, hey,
là.
faut
Ben
pas que
oui.
ça
Ben oui,
dépérisse.
c'est ça.
Puis les fournisseurs, les gens qui le RTC a déjà octroyé des contrats. Il y a des enjeux financiers assez importants là, dans ce dossier-là.
C'est clair. Alicia Despins, toujours un bonheur de te parler. Je te souhaite un excellent week-end et on se reparle politique municipale la semaine prochaine.
À la prochaine!
Salut, Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale chez nous à Boulevard 101, ex-conseillère municipale pour Vanier Duberger. Dernière pause dans l'émission On en jase et par la suite, Lambert Drainville s'installe avec nous. Un bulletin pour la première semaine de Christine Fréchette et magie, magie! Les médecins spécialistes se sont entendus avec le gouvernement.
Et ça semblerait que c'est parce qu'on a eu un changement de direction de la CAQ que
ouais.
ça s'est passé. Je veux savoir ce qu'il en pense.
Apparemment, moi aussi, c'est pour ça. On a gardé le meilleur pour la fin.
Une bonne soirée sur le Sunday, ça c'est sûr.
Et voilà. Alors, on en jase sur Boulevard 102.